Voilà. Écoutez, en quelques mots, je me présente. Bon, certains d'entre vous me connaissent bien, mais je vais me présenter par rapport aux Grégoriens. De ma 10e à ma 20e année, j'ai fréquenté le Grégorien. Je l'ai chanté tous les jours. Moi, j'étais en pension. Pour ne rien cacher, j'étais au séminaire. Donc, on a baigné dans le Grégorien. Ma formation musicale, je peux dire, elle a été en grande partie faite grâce au Grégorien. Je me suis aperçu d'ailleurs en allant au conservatoire après que je connaissais les clés sans les avoir travaillées. Donc ça, c'est la première période. La deuxième période, c'est une période très riche en qualité d'organiste à Essel-et-Nancy, hein, dans la banlieue donc nancéenne, où j'ai eu la chance d'être organiste dans une paroisse où il y avait une grande maîtrise de 40 adultes, hommes et femmes, qui chantaient tout le grégorien, le propre et l'ordinaire, on en parlera tout à l'heure, tous les dimanches, mais également les grandes polyphonies en latin, en français, et les cantiques en langue vernaculaire, c'est-à-dire en français, mais des cantiques qui étaient triées sur le volet par un curé qui était extrêmement musicien et qui ne tolérait pas l'approximatif. Voilà, ça c'est la deuxième période. La troisième, c'est à mon arrivée dans le territoire de Belfort en 2000, 2001, j'ai créé à Giromagny deux chœurs grégoriens. Dans le cadre des Amis de l'Orgue de Giromagny, on s'était fixé comme objectif la restauration d'un orgue. C'est fait. On a fait énormément de concerts, mais je précise, ce chœur grégorien n'était pas prévu dans un cadre liturgique. Voilà, vous savez tout. On y va. On commence cette conférence. J'espère que je vais répondre à vos attentes. Donc, j'arrête ma vidéo, vous m'excuserez, et nous commençons. Qu'est-ce que c'est que le chant grégorien? C'est un répertoire musical, hein, qui est composé des chants en usage dans les offices de l'Église catholique romaine. C'est une Bible chantée. Il y a un lien indissoluble avec la liturgie. Les mélodies grégoriennes doivent favoriser l'épanouissement spirituel de l'homme. Musicalement, le chant grégorien est un chant monodique. Les chanteurs chantent tous la même mélodie en utilisant la modalité dont nous reparlerons brièvement plus loin. Alors, avant de continuer, je voudrais vous dire que j'ai cherché, j'ai pris pas mal de notes et je me suis rapproché pour le chant grégorien, parce que je savais que c'était le mieux. Je me suis rapproché donc des éditions de l'abbaye de Solesmes. Et en particulier d'un ouvrage extrêmement intéressant, remarquable, un petit livre de Don Alain Saulnier sur le chant grégorien. Et ça a été mon livre de chevet et je me suis énormément inspiré donc, de tout ce qui était en partie dans ce livre que je vous recommande. Alors, quelques mots d'abord sur les origines du chant grégorien. Pendant 2 siècles, la liturgie chrétienne se passe en grec. Puis elle adopte la langue courante, le latin. Dans les différentes régions christianisées se constitue alors un répertoire local de chants sacrés en une seule langue, le latin, mais avec des textes et des musiques différentes. Ce répertoire romain est constitué et on peut dire terminé au 5e et 6e siècle. Il ne faut pas oublier que depuis le 4e siècle, les chrétiens peuvent s'exprimer beaucoup plus librement parce qu'il n'y a plus de persécution. On érige des basiliques, hein, le culte devient beaucoup plus solennel, et c'est à cette époque que naît la Schola Cantorum, ensemble composé d'une vingtaine de clercs, ce sont des chanteurs chevronnés, mais il y a également des élèves en formation. C'est la Schola qui remplace désormais le soliste qui assurait tout au départ. Elle va revoir tout le répertoire, cette Schola. Tout le répertoire qui existe va être revu, créé. On crée de nouvelles pièces en lien avec le développement et l'apparition du culte. Il faut penser que les offices deviennent de plus en plus imposants. Par exemple, la procession d'entrée prend une allure extrêmement imposante. Donc, il y a des chants qui suivent et le chant grégorien donc, suit toute cette progression. Dans la seconde moitié du 8e siècle, alors là, c'est très important, il s'opère un rapprochement entre le royaume des Francs, Pépin le Bref, Charlemagne, et puis la papauté. Tout ceci est extrêmement politique, car Pépin le Bref s'engage à protéger les territoires pontificaux menacés par les Lombards. En échange, le pape vient en France avec sa cour et il sacre le roi des Francs en 754 et s'installe à l'abbaye de Saint-Denis. On découvre la liturgie romaine et Pépin le Bref décide d'adopter cette liturgie en estimant qu'elle sera un moyen pour unifier son territoire. On voit très bien à ce moment-là que le pouvoir et la religion sont extrêmement liés entre elles. Que se passe-t-il? Les Romains apportent les chants romains qui existent, qui sont écrits, qui sont facilement imposables, transmissibles. Par contre, ça va être un peu différent pour les mélodies romaines. Les mélodies romaines, elles sont modales. Ça, ça passe encore, c'est admis. Mais par contre, les musiciens des Gaules ont une autre façon de chanter, une autre façon d'habiller toutes ces mélodies. Donc, il va y avoir une ornementation propre gallicane. On assiste alors à ce qu'on appelle une hybridation, et non pas un remplacement d'un répertoire par un autre. On peut dire à cette époque, donc, que le romain plus le gallican donne le grégorien. Pendant plus de deux siècles, 8e et 9e siècle, la plus grande partie du répertoire grégorien va être créée, finalisée. Tout est créé et transmis par tradition orale, il ne faut pas l'oublier, tradition orale. Et c'est Metz, on peut insister sur la place de Metz, qui joue un grand rôle avec sa Schola Metensis, l'école de formation des chantres, qui est recommandée par Charlemagne. Il invite tous les chantres de l'Empire à venir se former avec les chantres de Metz. On peut dire à cette époque que le chant grégorien, c'est le chant messin. Et je vais vous faire entendre une antienne qui est chantée par la Schola Metensis actuelle à Metz, une antienne qui précède les fêtes de Noël, c'est-à-dire une antienne ô sagesse qui sortit de la bouche du Très-Haut, touchant l'une et l'autre limite avec force et douceur, disposant tout, vient nous enseigner la voie de la prudence. J'espère que c'est... Donc, que peut-on dire maintenant à partir du XIe siècle? On peut dire qu'à partir de ce XIe siècle, le chant grégorien entre dans une longue période de décadence. Sans entrer dans les détails, la cause principale, c'est l'invention de l'écriture, l'invention progressive de l'écriture musicale. Avant, on l'a dit, on chantait entièrement de mémoire, c'est la tradition orale. Désormais, il y a un livre... L'écriture. Bien sûr, on chante encore de mémoire. Mais avant l'office, le chantre regarde le livre afin de se préparer. Lorsque la notation est bien établie, les neumes, puis les notes carrées, on chante avec les yeux fixés sur le livre. On néglige la mémoire, on néglige le geste vocal originel, on s'en éloigne. Dans son livre « Des neumes à la portée », une musicologue, Marie-Elisabeth Duchesse, nous dit ceci. La perte de l'élan de la pensée grégorienne, immobilisée par ses repères fixes, ouvrait à la musique une nouvelle ère de création, celle que l'on connaît maintenant. La partition lue, on écrit la partition, etc. C'est une nouvelle ère, ce n'est plus l'époque de l'oralité. La Renaissance, maintenant, la Renaissance qui suit, va donner un coup de grâce au chant grégorien. Parce que les éditions sont de plus en plus mauvaises, les grosses notes carrées que vous avez tous vues sur des enluminures ne suscitent plus aucun sentiment, les longs mélismes sont supprimés parce qu'on ne sait plus les chanter et qu'ils tiendraient trop de place sur la partition. Arrive le 19e siècle. Je vais vite, il y a peut-être des époques qui sont plus ou moins occultées, mais ce n'est pas possible. Au 19e siècle, Dom Guéranger entreprend la restauration de la vie monastique au prieuré de Solesmes, selon la règle de Saint-Benoît. Donc la journée des moines est entièrement centrée sur la célébration de la messe et de l'office divin. Ceci implique un retour aux formes liturgiques du début de la chrétienté et en conséquence une restauration du chant grégorien. Qu'est-ce qui prime? C'est l'exécution, le texte, le respect de la prononciation, les accents, le phrasé. Solesmes devient un centre de recherche réputé. Recherche et comparaison de manuscrits, de facsimilés en provenance des différentes bibliothèques d'Europe. On a à Solesmes un excellent atelier de paléographie musicale. Suit le XXe siècle. Toutes ces recherches aboutissent à une édition officielle des chants de la messe, le Graduel romain de 1908 et l'Office antiphonaire romain de 1912. Ces éditions sont en notes carrées, c'est celles que vous connaissez, c'est celles que l'on connaît. Cette restauration du chant grégorien n'est pas terminée, même actuellement. Le Concile de Vatican II a demandé une édition plus critique des livres déjà édités. Il y a un nouveau graduel nommé en 1966, comportant des neumes de l'abbaye de Saint-Gall, les neumes sangalliens. Puis il y a le Graduale triplex en 1979, avec des neumes sangalliens, mais également des neumes de Laon, de Laon, on doit prononcer Laon en Picardie, hein, de l'abbaye de Laon, la bibliothèque de Laon. Ces travaux sont dus à Don Jean Cardine et le travail se poursuit toujours. Le neume n'a encore pas livré tous ses secrets. Je vais vous montrer un document maintenant sur une communion de la messe de la nuit de Noël. Donc, c'est une communion in splendoribus, qu'on entendra d'ailleurs beaucoup plus loin dans la conférence, où l'on voit donc les notes carrées, bien sûr, la restitution de Solesmes, les notes carrées avec les épizèmes, voilà, etc., les ictus. Et puis au-dessus, donc, les neumes sangalliens, Saint-Gall. Et en dessous, en rouge, les neumes de l'abbaye, excusez-moi, au-dessus, les neumes de Laon. Voilà, en noir, oui. Et en dessous, en rouge, les neumes Encidel de Saint-Gall. Ça veut dire que les neumes ne sont pas quand même tout à fait la même, pareil. Mais probablement qu'elle signifie quelque chose d'assez semblable. Voilà où nous en sommes. Donc, on pourrait dire quelques mots sur l'histoire de la notation. Hein, comme nous l'avons vu, la composition du répertoire grégorien est quasiment close à la fin du 8e siècle. Et l'ensemble des chants de l'année liturgique est réuni donc les chants qui ont été créés par tradition orale. Et c'est au début du 10e siècle que paraît le premier livre de chants notés. Il s'agit du Cantatorium de Saint-Gall, Suisse, et également en 930, le Graduel de Laon, Picardie, représentant l'école de Metz, assez proche de l'école de Metz. Dans ces deux ouvrages, l'écriture pneumatique diffère, on vient de le voir tout à l'heure, mais on peut supposer que le chant est assez semblable. La tradition orale a quand même porté ses fruits. Ces notations primitives, c'est très important, ne doivent pas être considérées comme de véritables partitions, telles que nous l'entendons aujourd'hui. Il faut les comprendre comme des essais de reportage, comme si on avait enregistré. On n'avait pas de magnétophone à l'époque. C'est ce que pense le copiste. Il faut les comprendre comme des essais de reportage, de tentative, de fixer un geste vocal sur un parchemin. Aujourd'hui encore, on sait que la musique transcendra toujours tout système de notation au-delà. Je vous montre à nouveau un autre document. Donc là, c'est intéressant, c'est la comparaison comment, de la communion, oui, la communion de l'office du Jeudi Saint, hoc corpus, en neume à gauche, en neume de Laon. Voilà. Donc voilà. Et puis, à droite, dans le gradoire, les triplex, en neum de l'an, donc ils sont reproduits, et en neum sangalien, en dessous, en rouge. Voilà. Donc tout le travail, si vous voulez, de recherche, se situe dans ces documents. Il y a déjà des faits, mais je sais que ce travail se poursuit encore. On verra pourquoi plus tard. Voilà, après cette partition de l'an et du graduel triplex, on va poursuivre quelques mots encore sur la notation, hein, l'évolution de la notation. L'écriture pneumatique que nous venons de voir, elle traduit le rythme. On voit qu'il y a un élan, il y a un dessin, hein, le mouvement. Mais elle permet pas d'indiquer les intervalles entre les notes. Pour y remédier, c'est progressif. On s'aperçoit que dans les parchemins où les lignes étaient tracées, on a pris l'habitude d'écrire le texte latin qu'une ligne sur deux, afin de laisser la place au notateur de la musique pouvoir mettre ses neumes. Cette ligne servit donc de guide pour tracer les neumes bien horizontalement. Cette ligne devient un repère dans l'espace. Et on voit, on commence à écrire les notes aiguës plus haut et les notes graves plus basses. Peu à peu, d'autres lignes ont été ajoutées pour écrire la musique plus confortablement, pour que le répertoire, dont l'habitus vocal était plus important, plus étendu, puisse se situer dans l'espace. Alors, on attribue au moine Guy d'Arezzo l'invention de la portée. La portée grégorienne, elle est à quatre lignes. Disons il fait partie des personnes qui ont perfectionné ce système. Ça a été plusieurs. Bon, il faudra encore parler des clés, il faudra encore parler du nom des notes, mais là, je préférerais faire tout ceci dans une autre conférence. Retenons, pourtant, le neume, c'est la projection sur un parchemin d'un geste vocal. Il fait appel à l'imagination, à l'imaginaire. Par contre, la notation sur portée, c'est de la théorie du solfège qui ne représente pas la musique. On a vu plus haut que la théorie, de plus en plus sophistiquée, a engendré la décadence du chant grégorien. Nous en arrivons à la liturgie catholique romaine. Je cite Vatican II. L'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. Il est vrai que le chant occupe une place importante dans la liturgie catholique romaine, donc il faut une bonne connaissance de cette liturgie pour étudier le chant grégorien. On va dire d'abord quelques mots sur la messe et sur l'office divin. Office divin qu'on appelle aussi la liturgie des heures. Alors la messe, je ne vous apprends rien, depuis plus de 2000 ans, l'Église renouvelle le geste et les paroles du Christ au soir de la Sainte Cène, la dernière scène. Faites ceci en mémoire de moi. Le chant sacré qui accompagne, qui fait corps avec cette célébration, nous a été transmis grâce à la répétition hebdomadaire de l'action liturgique. Les premiers chrétiens, avec cette célébration de la scène, se démarquent radicalement des pratiques juives. Il n'y a pas de sacrifice. Et ce n'est pas le jour du sabbat. La célébration a lieu le dimanche. Mais par contre, le culte juif, composé de lectures des Écritures, de chants, de commentaires, de prières, est sûrement à l'origine de la première partie de la messe solennelle, de la messe du dimanche que nous connaissons actuellement, et elle intégrera en plus les écrits du Nouveau Testament. Le deuxième pendant, maintenant, c'est la liturgie des heures ou l'office divin. C'est la prière quotidienne qui concerne tous les chrétiens, mais qui s'est organisée de façon définitive en milieu monastique. La règle de Saint Benoît date à peu près de 530. Se succèdent les laudes du matin, l'office de tierce, de sexte, de nonne, enfin les vêpres le soir et encore les complies. Et il y a l'office aussi, l'office de la nuit. C'est surtout un moment de louange où le chant des psaumes et les lectures de la Bible tiennent la plus grande place. Je vais citer maintenant un père de l'Église, un des premiers pères de l'Église, s'appelle Tertullien, qui a vécu jusqu'au début du IIIe siècle. Un témoignage très important. Voici. On lit les Écritures, on chante des psaumes, on prononce des homélies et on fait des prières. On a là l'unité, vraiment l'unité liturgique essentielle, l'unité liturgique de base. On lit, c'est la lecture. On chante et on prie. Pour la lecture, c'est un lecteur qui aura dans les mains un lectionnaire. Pour le chant, c'est un chantre qui aura dans ses mains un cantatorium, sur lequel au début il n'y a que des textes, et puis peu à peu on a vu peut-être des notations musicales. Et pour la prière, le prêtre avec son sacramentaire. Nous avons encore en mémoire, bien sûr, la première partie de la vigile pascale actuelle. Rappelez-vous, succession de lectures et de chants, prières. Ça se répétait 7 fois auparavant. Maintenant, je crois que ça a été réduit à 3. Mais le troisième est très intéressant parce que c'est le cantique qui s'enchaîne directement après la troisième lecture, le passage de la mer Rouge. Et probablement qu'au départ de la liturgie chrétienne, c'était le même, le lecteur était également le chanteur qui faisait le psaume d'acclamation. Louez le Seigneur car il a fait éclater sa gloire. Donc au début, voilà comment ça se passait. Mais peu à peu, on s'aperçoit que la participation du peuple deviendra de plus en plus importante. Mais ça, nous le verrons plus loin. Il répondra aux célébrants au départ avec des formules très courtes. Et le schéma de base, là, lecture, chant et prière, va s'enrichir progressivement de nouveaux rites pour aboutir au 8e siècle à la messe solennelle. Quelles sont les personnes qui interviennent dans la liturgie? On peut distinguer trois groupes. Il y a le célébrant. Le célébrant, ce n'est pas un virtuose de la voix, sauf exception. C'est une personne qui va assurer, le prêtre qui va assurer la partie musicale assez sobre, beaucoup de récitatifs, quasi syllabiques, très peu d'ambitus, échelle sonore assez réduite, très peu de variations, juste pour ponctuer le texte. Ces récitatifs se retiennent assez bien, assez vite par cœur, parce qu'ils reviennent régulièrement. On est encore ici en pure tradition orale. Alors, je vais vous faire entendre un extrait d'une préface grégorienne. Écoutez, je vous fais entendre et puis nous en parlons après.
Dominus vobis cum
et cum spiritu tuum
sum corda.
Habemus ad hominum.
Gratias agamus Domino Deum nostrum. Dignum et justum es et cum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte pater omnipotens aeterne Deo, quia per incarnati verbi mysterium nova mentis nostre oculis lux tui claritatis infulsi.
Voilà, je me permets d'arrêter dans la préface, excusez-moi. Bon, c'est pas exactement un très bon exemple d'interprétation du grégorien. sachant que cette préface, là, elle amène le Sanctus, c'est-à-dire l'acclamation, hein, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, le Sanctus que nous verrons plus loin. Mais voilà, c'est un récitatif, hein, très simple, chantable, je dirais, par des personnes qui n'ont pas forcément une culture vocale extraordinaire. Le peuple, maintenant, le peuple, ben, il répond aux célébrants et à ses ministres, dans le même style, par des acclamations très brèves. Hein. Deo gratias, et cum spiritu tuo. Le répertoire populaire se constitue progressivement également. On y trouve des chants de l'ordinaire de la messe, et Kyriale, mais aussi des hymnes, des chants de procession. Et le troisième groupe, je pourrais dire, c'est un groupe, ça s'appelle la Schola Cantorum, c'est un groupe de chantres. Alors là, nous sommes dans le répertoire des gens qui sont beaucoup plus doués, plus formés vocalement, au service de la liturgie. Leur répertoire est donc musicalement plus élaboré. À la messe, ils interpréteront, on le verra tout à l'heure, l'introïte, l'offertoire, la communion, des pièces difficiles. Dans la Schola, on trouve des solistes également. Ils sont encore meilleurs, véritables spécialistes, les seuls à pouvoir interpréter des morceaux difficiles, ornés. Il s'agit des chants entre les lectures, le graduel, le trait, que le peuple des fidèles écoute très attentivement, comme s'il s'agissait d'un sermon en musique. Quelles sont les formes musicales du chant grégorien ? Le chant grégorien, qui est situé au cœur de la liturgie, trouve son répertoire dans les livres qui sont utilisés aujourd'hui, à savoir le graduel pour les pièces de la messe et l'antiphonaire pour les pièces de l'office divin. Les chants de la messe, les pièces grégoriennes contenues dans le graduel, graduale romanum, se répartissent en trois parties. Il y a le propre, le commun et l'ordinaire. Le propre, c'est un ensemble de pièces qui sont chantées chaque dimanche de l'année liturgique, chaque dimanche de l'année liturgique, avant carême, temps pascal, temps ordinaire, c'est le troisième dimanche après la Pentecôte, etc. Mais aussi aux fêtes du Seigneur, Ascension par exemple, et à la fête des saints. C'est chaque fois, le répertoire est chaque fois différent. Donc quel luxe, je dirais. Quelles sont ces pièces pour chaque office ? Ce sont des introïtes, des graduels, des alléluia, des offertoires, des chants de communion. En plus, on a les traits, très difficiles, après les lectures en carême. Et quatre séquences, dont vous vous rappelez peut-être certaines d'entre elles, Victime Pascali Laudes, Veni Sancte Spiritu, Laudation, Stabat Mater, c'est pour quatre grandes fêtes. Les séquences qui suivent l'Alléluia. Le commun, maintenant. Le commun, c'est bon, un ensemble de chants que l'on interprète à la fête des saints, mais ils ne sont pas attachés à une fête précise. Donc on les retrouve plusieurs fois communes dans les fêtes des martyrs, par exemple. Il y a toujours le même introït. Les vierges martyrs, les apôtres, etc. Ce sont toujours les mêmes introïts, communion, offertoire, etc. Et puis il y a l'ordinaire. Alors l'ordinaire, peut-être que on est encore assez proche de nos jours de l'ordinaire. Ici, ce sont les chants qui sont toujours les mêmes, quel que soit le texte est toujours le même, quelle que soit la fête. Il s'agit du Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus Dei. Avant d'aborder le contenu de l'antiphonaire, j'aurais peut-être un peu de mal à y arriver, mais on va essayer. Et pour des raisons pratiques liées à la durée de cette conférence, j'aimerais faire entendre, en premier lieu, plusieurs exemples de chants de la messe, en expliquant brièvement leur rôle dans l'office, leur place et leur rôle. Nous profiterons en même temps pour nous pencher sur la modalité, en sachant que je vais être quand même assez bref, parce que là, il y aurait de quoi parler pendant plusieurs heures. Et la modalité, les modes qui sont utilisés. Je commence par le propre. On s'intéresse à un introït, un alléluia et une communion. Pour l'ordinaire, on écoutera un Kyrie, un Sanctus et un Agnus. Donc tout d'abord, l'introït. Alors ce chant a une fonction bien précise. Il doit accompagner la procession d'entrée du célébrant et de ses ministres. C'est le rite initial de la messe. Les fidèles sont unis dans la prière grâce au chant. Le texte du jour permet de rentrer dans le mystère qui est célébré ce jour-là, mais la mélodie joue un rôle important en donnant le ton, la tonalité. On va écouter la première partie de l'introïde du dimanche de l'Épiphanie. Viens le Seigneur, souverain de tous les peuples, il a dans ses mains le règne, le pouvoir et la gloire. Ecce advenit. La mélodie témoigne d'une certaine vigueur. Chaque phrase est formée d'un homme ascendant. Pour bien souligner les mots importants, dominator, dominus, regnum, potestas, imperium, le texte des introïtes est en général tiré des psaumes, ici, ou des écritures. Il provient du livre de Malachie. Cette première partie se rattache au genre antienne. C'est la scola qui est chargée de son exécution, en alternance avec un soliste qui se charge des versets de psaumes. Nous allons entendre la suite dans un instant. Le chant, ce chant, et donc le nombre de versets, dépend de la durée de la procession. On peut faire un seul verset, on peut faire 3, 4, 5, 6 versets, en fonction de la durée de la procession. Bon, maintenant, en dernier lieu, nous avions simplement un verset et la reprise de l'antienne. Donc le psaume ici, c'est le psaume 71. Deus judicium tuum regida. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice. Voici la suite de cette introïte à partir du verset et la reprise de l'antienne. Tous les modes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mode? Alors nous allons rester simples, mais de toute façon incomplets, ça j'en suis sûr. La musique tonale que nous entendons depuis des siècles et encore actuellement ne comporte que deux modes, le mode majeur et le mode mineur. Quelle que soit la tonalité, ré majeur, fa majeur, etc., on a toujours, si vous voulez, la même échelle des tons et des demi-tons. Elles sont identiques. Dans la musique modale, c'est absolument différent. Chaque mode a une échelle différente. C'est-à-dire que les intervalles de ton et de demi-ton, pour les musiciens, ne sont pas au même endroit d'un mode à l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les tons et demi-tons ne sont jamais au même endroit. C'est ce qui fait la richesse et la variété, mais aussi la particularité de la musique modale. Pour le chant grégorien, on compte 8 modes. Ré, deux fois, mi, deux fois, fa, deux fois, sol, deux fois. Appelé ton d'église ou ton grégorien. Nous allons voir plus loin qu'il existe une autre échelle encore, plus ancienne, que l'on retrouve dans le chant sacré occidental. Il s'agit de l'échelle pentatonique, que nous verrons plus loin avec la communion de la nuit de Noël, In Splendoribus, dont vous avez vu tout à l'heure la partition. Alors on va reprendre maintenant les chants du propre de la messe. Comme on ne peut pas tout écouter, on va citer simplement. Après la lecture se situe le graduel. À l'origine, l'assemblée répondait au chant du soliste qui donnait les différents versets du psaume. Donc c'était une psalmodie avec refrain. Le soliste était sur une estrade, ce qui explique le mot de graduel. Les dimanches de carême, on rencontre également le trait. C'est encore plus difficile à chanter. Toujours entre les lectures. C'est un psaume qui est chanté sans réponse de l'assemblée, par un soliste et plus tard par la scola. Venons-en maintenant à l'Alléluia. Nous allons écouter le début de l'Alléluia du dimanche de l'Épiphanie, l'intonation et le jubilus. Liturgie juive et chrétienne, ce mot exprime l'allégresse des fidèles. Littéralement, ça signifie louer le Seigneur. Dans les premiers manuscrits de chants grégoriens, il s'agit d'un chant placé entre les lectures et, à l'origine, réservé au jour de Pâques. On se rappelle encore le triple Alléluia chanté à la veillée pascale après les trois ou les sept lectures. Quelle est la forme de l'Alléluia ? Tout d'abord, le mot Alléluia assez peu orné. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le jubilus, une vocalise sur le nom divin Yah. Cette vocalise n'est-elle pas ici une préparation à la lecture de l'évangile qui va suivre tout de suite après? Après cette vocalise, il y a le verset qui est lui-même tiré des psaumes ou d'un passage de l'Écriture. Ici, c'est Matthieu, deuxième chapitre. Vidimus stellam eius in oriente. Nous avons vu son étoile en Orient et nous venons avec des présents rendre hommage au Seigneur. Alléluia. On peut noter que la fin du verset reprend assez souvent la mélodie finale du jubilus. Voici maintenant donc cet Alléluia, normalement à partir du verset et la reprise de l'Alléluia.
Thank you.
On prend ensuite l'offertoire, destiné à accompagner le rite de l'offertoire, le rite des offrandes. Ce chant est assuré par la scola, comme pour l'introïte et la communion. Car il demande, ce chant, une certaine virtuosité. Il est donc réservé à des solistes choisis parmi la scola. La communion, à présent, il s'agit de la dernière pièce vocale faisant partie du propre de la messe. Son rôle, vous le savez, est d'accompagner les fidèles qui vont communier. La scola est chargée de l'exécution de cette pièce, en alternance avec un soliste. Les textes correspondent à l'Eucharistie ou sont en rapport direct avec la célébration, puisant dans les psaumes et le Nouveau Testament. Nous allons écouter la communion de la messe de la nuit de Noël. Ce texte est tiré du psaume 109. In splendoribus sanctorum ex utero ante luciferum genuite. Dans les splendeurs des cieux, je t'ai engendré avant l'aurore du monde. L'originalité de cette pièce réside dans son mode. Il s'agit d'une échelle pentatonique. Je vais utiliser un gros mot, hein. Échelle pentatonique anémitonique, c'est tout simplement sans demi-ton. On rencontre cette échelle dans de nombreuses régions du monde, bon, l'Extrême-Orient, bien sûr, la Chine, la Corée, le Japon, le Vietnam, également dans des folklores de Hongrois, d'Europe centrale et dans le folklore grec, mais également ailleurs. On a donc affaire, on peut dire, à une pièce relativement ancienne, d'un mode archaïque. Je vous fais entendre cette communion extraite donc de l'office de la nuit de Noël. L'enregistrement n'était pas extraordinaire, étant donné qu'on avait un accompagnement d'orgue, mais ça aurait pu être fait plus discrètement. Mais c'était simplement pour que nous entendions donc les appuis, le pentatonique. Hein. Pardon. Je ne suis pas en voix, c'est dommage. Mais ce n'était pas très très bien chanté, comme mon exemple d'ailleurs le. Nous en venons maintenant à l'ordinaire de la messe. L'ordinaire, on va dire quelques mots sur chacun des chants, dans leur ordre de placement dans la messe, hein, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus, illustrés par quelques exemples sonores. Alors, c'est ce qu'on appelle couramment le Kyriale. La restauration grégorienne du XIXe siècle a regroupé ces chants pour constituer des messes, la messe 1, la messe 2, la messe 3, jusqu'à la messe 18. Mais en plus, il y a d'autres compositions dites ad libitum, le Kyrie 2, ad libitum, etc. Ce répertoire est très composite, de style populaire, avec de nombreuses variantes locales, et composé sur plusieurs siècles. Tout d'abord, le Kyrie. Kyrie eleison, Seigneur, aie pitié. Les fidèles utilisent cette formule grecque pour acclamer et implorer la miséricorde du Seigneur. À l'origine, ce chant, c'était une invocation trinitaire, Kyrie, Christe, Kyrie, qui se rencontrait à différents endroits de la liturgie. Aujourd'hui, elle est placée, cette invocation, au début. C'est un rite pénitentiel. La musique du Kyrie respecte l'écriture de ce mot, de ce vocable. On a retrouvé dans les premiers manuscrits écrit en un seul mot, Kyrie eleison, avec un Q-U-I, hein, Kyrie eleison, et elle place un mélisme, plus ou moins développé, au milieu, sur le E qui relie Kyrie et eleison. Autre remarque par rapport à ce Kyrie, à ces Kyrie. Si on regarde le Graduae Romanum, on s'aperçoit qu'il y a une inscription au niveau du Kyrie juste avant dans le titre. C'est Kyrie Lux et Origo, Kyrie Cum Jubilo, Orbis Factor, De Angelis, des anges. À partir du 9e siècle, se développe en effet un mode particulier d'exécution de la vocalise sur le E. Sur le E. On place une syllabe sur les différentes notes de la vocalise. Cela forme de petites phrases en rapport avec le sens de l'office du jour. On en arrive donc au trope. C'est ce qu'on appelle un trope, c'est une transformation, dont on retient les premiers mots pour désigner ici tel ou tel Kyrie, Orbis Factor, De Angelis, etc. Donc je vais vous faire entendre le Kyrie 4, grégorien, simplement le tout premier Kyrie, auquel s'enchaîne tout de suite le deuxième tropé. Cumqui potens genitor Deus omni creator, c'est le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, prends pitié de nous. Nous ferons une remarque après sur ce Kyrie 4, sur cet exemple. Être à une seule voix, est ici à deux voix. Hein. Il y a on peut appeler du déchant, de la diaphonie. Donc on est au-delà de la période dont on a parlé. Je pense que là, je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'on est entre le 12e et le 13e siècle. Mais sur le texte grégorien, bien sûr. Le Gloria s'enchaîne au Kyrie. C'est une hymne liturgique chrétienne primitive. L'original du Gloria est en grec. Le texte originel est en grec. Il pourrait remonter au 3e siècle. La version latine que nous connaissons, elle, date du 9e siècle environ. Il faisait partie uniquement de la messe de minuit, de la nuit de Noël, pardon. Le texte précise. Il a été chanté aux grandes fêtes, en plus de Noël, aux grandes fêtes, mais réservé à l'évêque seul. Maintenant, il est chanté par tous les fidèles. Il n'y a pas de Gloria en avant et en carême. La structure d'un Gloria est assez simple. Intonation, puis louange au Père, louange au Fils, et enfin mention du Saint-Esprit. Alors, l'édition actuelle du Vatican nous donne 19 mélodies. Nous allons écouter le début de l'une d'elles, le Gloria ambrosien, qui est d'une grande simplicité mélodique, sûrement très proche du modèle primitif. Voici le début du Gloria ambrosien.
Gloria in excelsis Deo, et in terra patientibus corribus pacis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus Filii.
Nous avons tous remarqué donc le mélisme sur tibi, hein, gratias agimus tibi. Voilà, nous avons écouté malheureusement que le début. Je vous invite à retrouver ce Gloria ambrosien sur le net si vous êtes intéressé par la suite de cette magnifique pièce grégorienne. Le credo maintenant, à présent. Le credo, ben, il est proclamé ou chanté aussitôt après l'homélie du prêtre. C'est la profession de foi des chrétiens, on l'appelle aussi le symbole de Nicée-Constantinople, là où ont eu lieu deux grands conciles au 4e et au 6e siècle. Ces deux grands conciles qui ont arrêté, précisé le texte du credo. Ce chant n'est admis dans la messe romaine qu'au 11e siècle, en 1014, uniquement le dimanche et aux grandes fêtes. L'édition vaticane nous livre six mélodies, toutes de style syllabique, c'est-à-dire il y a une syllabe, une note, une syllabe, une note. Le Credo 1, véritable psalmodie en mode de mi, date du XIe siècle. C'est probablement celui qui se rapproche le plus de la forme originelle. Malgré ma voix enrayée, je vais essayer de vous faire une comparaison entre l'intonation du Credo 1 et l'intonation du Credo 3, que certains d'entre vous connaissent quand même peut-être encore un peu. Donc le Credo 1.
Credo in unum Deum.
Et le Credo 3.
Credo in unum Deum.
Je pense, il n'y a pas besoin de trop de commentaires, l'un est modal, l'autre, le Credo 3, écrit au XVIIe siècle, avec un bel accord parfait au départ, c'est tonal. Le Sanctus, à présent, le grand récitatif de la préface que nous avons entendu en exemple plus haut, introduit le chant du Sanctus, qui est exécuté à la fois par le prêtre et par les fidèles, par le peuple. L'Église de la Terre se joint au cantique céleste, hein, le ciel et la terre, l'Église sunt celi et terra, pour affirmer solennellement la sainteté et la transcendance du Dieu de l'univers. Nous allons écouter le Sanctus 18. Il est chanté actuellement aux fêtes de l'Avent, au Carême et aux Messes des Morts. Je l'ai choisi pour sa grande simplicité dans la mélodie, qui s'enchaîne parfaitement avec le style récitatif de la préface qui précède, mais aussi avec le style récitatif du canon qui va suivre. On peut penser que nous avons ici une forme extrêmement ancienne de ce chant. Voici le Sanctus 18. Nous allons terminer donc avec les chants du propre, avec l'Agnus Dei. Le chant de l'Agnus Dei accompagne la fraction du pain, hein, la fraction du pain consacrée. Et donc, il se chante pendant la distribution de ce pain aux fidèles qui communient. Ce chant est exécuté par toute l'assemblée, qui rend hommage et supplie humblement l'agneau qui s'est rendu présent sous l'espèce du pain. Nous allons rester volontairement dans la messe 18 et sa grande simplicité. Mélodie empreinte d'une grande simplicité, trois notes, trois ou quatre notes, très peu d'étendue, hein, probablement issue des litanies des premiers siècles chrétiens. Au début, cet Agnus Dei était chanté pendant toute la fraction du pain, pendant toute la communion, et puis progressivement on a fixé le nombre des incantations, des invocations, pardon, à trois, en ajoutant en conclusion « Dona nobis pacem ». Voici l'Agnus 18. Venons-en maintenant à l'office divin. Après avoir passé en revue les principales pièces grégoriennes contenues dans la messe, regardons à présent les chants notés dans l'antiphonaire. Je vais citer d'abord saint Augustin. Dans le temps où ils sont réunis à l'Église, je ne vois pas ce que les chrétiens peuvent faire de plus utile, de plus saint, que de chanter les psaumes. Regardons l'organisation d'un office, celui de vêpres par exemple. Il y a d'abord un invitatoire. Deus in adutorium eum. Deus in adutorium. Une incantation, donc une supplication. Dieu vient à mon aide. Invocation, pardon, qui est tirée du psaume 70. Ensuite, il y a les psaumes et leurs antiennes. Dans les vêpres du dimanche, par exemple, il y a 5 psaumes précédés et suivis de leurs antiennes propres. Ensuite, une lecture brève, un répond bref, une hymne et un verset, le Magnificat, qui est le cantique de la Vierge Marie, avec son antienne qui précède, une prière litanique, une prière d'intercession, une sorte de prière universelle, la prière du Notre Père, plus une courte oraison, qui est souvent reprise dans la messe du jour, la collecte de la messe du jour, qui précède les lectures, et ensuite le Benedicamus Domino, Deo Gratias, c'est le Itemisaes, Deo Gratias de la messe. Voilà, on s'aperçoit donc que l'on retrouve ici les fondamentaux de la liturgie, à savoir lecture, chant, prière. Alors, pour mieux appréhender ce chant des psaumes, il est nécessaire de dire quelques mots sur les grandes formes de la psalmodie. Que dire sur ces deux premiers siècles de la chrétienté? On peut supposer que le chant du psaume et que la lecture sont assez difficilement dissociables. C'est le même ministre qui assure lecture et chant. L'assemblée est prise en écoutant. Le psalmiste donne le psaume, verset après verset, directement, sans arrêter, d'où l'appellation de « indirectum ». C'est ce que l'on peut appeler la psalmodie sans refrain. Dans les siècles suivants, au IIIe et IVe siècle, l'Assemblée commence à participer plus activement à la psalmodie. C'est ce qu'on va appeler le psaume responsorial. À la fin de chaque verset, l'Assemblée répond au soliste en chantant un court refrain. Ce refrain est facile à mémoriser parce que le psalmiste, au départ, l'a déjà chanté tout au début du psaume. Donc il a mis en condition les fidèles. Cette forme responsoriale se retrouve assez clairement dans ce qu'on appelle le répond bref. Je vais vous faire entendre un répond bref. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on l'entend quand même bien comme cela. C'est extrait des complis, de l'office des complis. In manus tuas domine. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Office des complis. In manus tuas. Je vous fais écouter ce répond bref. Ce répond.
In manus tuas domine, cum in nostritum mentum. In manus tuas domine, cum in
psalmodie avec refrain, que nous illustrerons plus loin avec le premier psaume des vêpres du dimanche, le fameux Dixit Dominus. La règle de Saint-Benoît donne une grande place à la récitation du psautier. La communauté est divisée en deux chœurs qui se font face à face et alternent les versets, d'où le terme d'antiphonie. On retrouve ici les deux façons de psalmodier. Une psalmodie sans refrain, les versets sont chantés les uns après les autres en alternance d'un chœur à l'autre. L'alternance est par contre conservée dans la psalmodie avec refrain. Au début, on chante ensemble ce refrain après chaque verset. Mais il vient un temps où on ne chante plus ce refrain après chaque verset, mais on le chante qu'au début et à la fin du psaume. Cette pratique s'est imposée progressivement à partir du moment où les refrains sont devenus plus longs, plus importants, plus élaborés, plus développés. Ils arrivent, ce sont des antiennes. Antiennes qui deviennent des pièces musicales, on va dire, à part entière. On l'a vu tout à l'heure avec l'introïte de l'épiphète. Je vous fais entendre donc le Dixit Dominus, l'antienne, et les deux premiers versets. Autrement, ce serait peut-être un peu trop long. Le texte, c'est le début, la traduction, excusez-moi, c'est « Oracle du Seigneur à mon maître, siège à ma droite ». Je veux bien parler de l'office, là je suis obligé de quitter l'office qui a été traité d'une façon un peu rapide, mais le temps presse et donc il faut essayer de remplir notre programme, parce que s'est-il passé depuis Vatican II? Nous l'avons dit dès le début de cet exposé. Dans la charte de Vatican II, il est écrit: le chant grégorien est le chant propre à la liturgie romaine. C'est donc lui qui, dans les actions sacrées, toutes choses égales d'ailleurs, doit conserver la première place. Néanmoins, il faut reconnaître que dans les paroisses, en règle générale, ce chant grégorien demeure une exception. Je ne prends pas en compte les messes dites traditionnistes. Et ce chant grégorien a été peu à peu mis de côté tout au long des 40 dernières années. Le répertoire grégorien du propre a été vite abandonné et on comprend pourquoi. Il demande des chanteurs expérimentés, une maîtrise, qui répètent régulièrement, afin de produire des interprétations à la hauteur de ce magnifique répertoire. Le propre, c'est la véritable richesse du chant grégorien. Plus on avance, après les années 70-80, plus le grégorien, là où il est encore chanté, se réduit au chant de l'ordinaire de la messe, quelques exemples avec le Kyrielle et des anges, écrit au XVe et XVIe siècle, le Credo III, que je vous ai très mal chanté tout à l'heure, XVIIe siècle, quelques hymnes et antiennes, comme le Veni Creator, le Salve Regina, j'en passe. Plus on avance, plus on a le sentiment que même ces quelques textes sont appelés à disparaître, faute de pratique et de transmission. Et puis, bon, il y a eu le moment des équipes liturgiques, l'introduction dans les offices d'une multitude de nouveaux chants en langue vernaculaire, et avec eux, une foule de compositeurs dont les créations ont été assez inégales, sauf exception, bien sûr. Musicien, c'est un métier, ça s'apprend. Un chant écrit pour la liturgie se doit de revêtir une certaine allure. On n'est pas dans la chansonnette. Il me semble également qu'un changement important est intervenu dans la pratique liturgique. Rappelons-nous les rôles et les fonctions des acteurs de la liturgie. Le célébrant, la scola, l'assemblée. On a l'impression aujourd'hui que dans de nombreux endroits, l'assemblée doit tout chanter du début à la fin de l'office, pour cause de participation. Alors, j'ai envie de dire, que faut-il faire s'il faut faire quelque chose ? Se résoudre à écouter le chant grégorien grâce au chœur professionnel qui donne régulièrement des concerts, avec ou sans orgue en alternance éventuellement. Il y en a beaucoup, des ensembles qui se produisent. Se rapprocher des différents centres d'études et de pratique du chant grégorien. Il y en a plusieurs. Moi, je peux recommander le centre d'études grégorienne de Metz pour sa proximité. Sa Schola Metensis donne des concerts, offre des formations. On trouve facilement les coordonnées sur le net. Assister aux offices donnés dans les monastères qui ont gardé une pratique régulière du chant grégorien. J'ai lu à ce sujet, avec beaucoup d'intérêt, un entretien avec un moine sur le chant grégorien. Voici ce que dit en 2010 ce moine bénédictin Hervé Courault, père abbé de Notre-Dame de Trior dans la Drôme. Je le cite pour terminer cette conférence. Se demander si la liturgie existe encore sur le terrain dans sa forme latine et grégorienne signifie presque « La liturgie existe-t-elle encore ?» Cette réalisation intégrale de la liturgie solennelle latine et grégorienne est hélas un privilège devenu presque exclusivement monastique. À ma connaissance, seule une vingtaine de maisons monastiques usent largement en France du latin et donc du grégorien dans leur liturgie quotidienne. Mais on ne peut se cacher la réalité. La liturgie, surtout paroissiale, en rompant brutalement avec la façon traditionnelle il y a 30 ans, c'était en 2010, a porté atteinte à son essence même en tant que prière publique solennelle. Certes, on peut y trouver de la piété, mais ce grand fleuve qui défie les siècles semble couler désormais ailleurs et n'être plus sous nos yeux. Et c'est un grand dommage pour les fidèles qui, pour la plupart, ne savent même plus juger de ce qui leur manque. Réinventer chaque dimanche les lois de la prière liturgique s'avère impossible, et il est fâcheux de faire comme si l'on avait à improviser à chaque fois. Je me permets de réapparaître devant vous. En attendant éventuellement donc les questions.
Jean-Jacques, merci pour ce temps d'intervention. Donc, la règle, vous posez toutes les questions que vous voulez, on les prend par deux ou trois, et on laisse donc à Jean-Jacques la liberté d'y répondre. Vous avez la parole. Simplement, vous pouvez, si on vous a coupé les micros, vous pouvez les réactiver sans difficulté.
Ah oui.
Oui, une question de Béotienne, là. Comment est-ce que Vatican II peut à la fois affirmer que le chant grégorien est la première place et permettre des chants en langue vulgaire?
J'ai pas tellement de réponses. Mais je pense qu'il y a eu un laisser-aller. Enfin, il y a eu des choses qui ont été affirmées et il n'y a pas eu de suivi. Voilà, il n'y a pas eu de suivi. Je ne dis pas une débandade, mais enfin, ça a été laissé. C'est parti dans tous les sens, je pense. Moi, j'ai connu ça. Alors, je vais revenir, si vous voulez, à une expérience personnelle. Je vous ai dit au début de la conférence que j'avais été organiste. J'avais la grande chance, vraiment la grande chance d'être organiste à Essey-les-Nancy de 1974 à 1985-86. Voilà. Il y avait un prêtre, l'abbé Paul Homé, un prêtre vraiment d'une très très grande profondeur, qui était un grand musicien en même temps. J'avais beaucoup de chance. Et un grand orgue également construit, l'église avait été construite avec ce prêtre, grand orgue construit, maîtrise de 40 personnes, église pleine à tous les offices, chant grégorien, polyphonie. Et d'un seul coup, tout s'est arrêté lorsque le prêtre est parti. Et il n'y a pas eu de relève, parce que j'ai compris à l'époque que cette paroisse vivait trop richement. Voilà, c'était trop. La liturgie était trop belle pour être continuée. C'était lamentable, c'est lamentable à dire, mais tout s'est cassé la figure parce qu'il y a un prêtre qui est arrivé après et qui a tout cassé. Voilà. Donc c'est dommage, mais il n'y a pas eu de directive, je dis précise. Il y a eu les mots du Vatican, il y a eu les mots des évêques et tout, mais ça n'a pas été suivi sur le terrain. Voilà.
On m'entend là ?
Non, on n'entend pas, Bernard.
Oui.
Oui. D'un point de vue, j'ai des vagues souvenirs de vagues cours de musicologie quand j'étais en faculté de théologie protestante il y a fort longtemps à Strasbourg, chez Honegger.
Oui.
Et je crois me souvenir qu'il nous disait que le pou servait de mesure pour chanter le grégorien. C'est vrai ou pas? Vous m'avez entendu là?
Oui, je vous ai entendu. Je ne peux pas tellement vous répondre. J'ai déjà entendu cela. Hein.
Oui.
Mais c'est en quelle année?
Oh ben, c'était en 69. Oui. 68, 69.
Non, mais c'était peut-être une technique qu'il avait trouvée pour... C'est quand même le gros problème, le rythme. C'est quand même le gros problème.
Oui.
Moi, je serais plus partisan de me rapprocher du rythme verbal.
D'accord.
Voilà. Et le pou, bon, pourquoi pas, je dirais peut-être. Je pense que lorsqu'il a dit ça, c'est Marc Honegger. Hein.
Oui, Marc Honegger.
Je
oui.
pense que quand il a dit ça, c'était peut-être pour que la diction, la scansion, le chant soit plus calme, peut-être, oui. relativement calme. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a le pouls qui bat à 120?
C'est vrai.
Je ne vous ai pas parlé de Saint-Augustin. C'est volontaire de ma part, parce que je me suis dit, il y aura sûrement une question sur le grégorien. Et Saint-Grégoire le Grand, pardon, pas Saint-Augustin. Saint-Grégoire le Grand. Oui. Personne n'avait pas trouvé drôle que je ne parle pas de...
Grégoire le Grand. Pourquoi grégorien, oui.
Voilà. Hein. Donc, vous savez qu'on a attribué la paternité du grégorien au pape Saint Grégoire le Grand, hein, qui a vécu, je crois, qui a été élu pape en 590, je crois, oui, et qui a vécu, qui a été pape jusqu'en 610 ou 620, peut-être moins. Enfin, il n'a pas composé, il n'a pas écrit le grégorien à l'époque. Il n'y avait pas d'écriture musicale, etc. Par contre, c'est un pape qui, à son époque, a ordonné, rangé au niveau liturgique l'ensemble des textes de la liturgie romaine, et il les a distribués sur l'année liturgique. Voilà, il a mis de l'ordre dans les chants, mais il n'a pas composé. Alors pourquoi grégorien? Bien parce que, disons, deux ou trois siècles plus tard, on a reconnu son travail sérieux, hein, par rapport au texte, et qu'il fallait bien une paternité à ce chant grégorien. Ça a été fait donc par... On lui a donné cette paternité, mais ça ne veut pas dire qu'il a composé. Voilà. Il a simplement ordonné, réuni des partitions. Je vais vous donner d'ailleurs une image très intéressante. Voilà. Donc ça, c'est dans le... Je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est au XIe siècle, je pense, Saint-Gall. Et donc, on voit Grégoire, un Grégoire, il était déjà saint à l'époque, hein, vous voyez, par son vivant, il dicte à un copiste, à un scribe, il dicte un texte grégorien. Mais il faut savoir que là, on est dans 300 ans après sa mort. Donc voilà, la notoriété de Saint Grégoire, c'est après.
Je vois sur la fiche de présentation que Racine et Chemin avait fêté, vous avez été enseignant d'analyse d'écriture au Conservatoire d'Épinal et de Belfort. Quelle est la place de cet enseignement du Grégorien par rapport aux jeunes qui apprennent la musique dans ces, conservatoires?
Oui. Alors, je voudrais savoir au départ, est-ce que vous me voyez toujours?
Non.
On vous entend, mais l'image est fixe.
On voit l'image.
Est-ce que vous me voyez?
Non. Oui, dans une petite icône. Oui,
voilà.
Mais c'est Saint-Grégoire qui occupe le maximum de place. Voilà.
Voilà, c'est bon là? Oui,
c'est bon. Il semblerait qu'il y ait un problème avec la caméra.
Je la enlève ça.
Pour peut-être arrêter et redémarrer la caméra.
Il va faire une mauvaise manipulation. Qu'est-ce que je vais faire? Vous m'entendez?
Oui.
Le partage d'écran.
Oui, voilà, on vous revoit là.
Voilà. Voilà. Mon épouse va me donner beaucoup de mal. Alors, la question c'était dans l'enseignement au conservatoire.
Oui, parce que je vois que vous avez été enseignant d'analyse et d'écriture musicale au Conservatoire d'Épinal et de Belfort.
Je ne peux pas rouvrir ça.
Est-ce que dans ces différents lieux d'enseignement,
oui,
place.
Oui. Alors, au Conservatoire de Metz, j'ai enseigné effectivement l'écriture musicale, l'analyse. L'analyse a des classes musicales, d'ailleurs. Et le programme ne comportait pas ce dont je me rappelle, l'étude du grégorien. Alors, dans l'écriture musicale, dans l'écriture musicale, dans l'écriture musicale, on étudiait l'harmonie, le contrepoint, mais pas le grégorien. C'est-à-dire qu'on était plus proche de ce qu'on fait actuellement, plutôt que des recherches grégoriennes dans le temps ancien. C'était de l'écriture à plusieurs voix. Grégorien, c'est à une voix, c'est de la monodie. Donc, au niveau de l'analyse, j'aurais pu, mais ça faisait pas partie des programmes. Ça faisait partie des programmes au niveau des professeurs d'histoire de la musique, où ils abordaient automatiquement l'époque grégorienne. Voilà.
Dans le panorama historique que vous avez fait tout à l'heure, vous avez parlé de la Renaissance.
Oui, mais j'ai été très vite, très vite.
Moi, ma question, c'était un peu, l'introduction au moment de la réforme de la langue vulgaire. Est-ce que ça s'est traduit dans la liturgie catholique au moment de la réforme catholique ou pas? Est-ce que ça a eu des contre-coups?
Je comprends pas votre question, excusez-moi, je comprends pas.
La réforme a marqué un grand changement.
À quelle époque?
La réforme du 15e siècle. La réforme
a
marqué un grand changement au niveau de l'utilisation de la langue. Est-ce que ça a eu, au niveau protestant, c'est l'utilisation de la langue vulgaire. Et est-ce que ça a eu un contre-coup du côté de la réforme catholique et de la pratique musicale catholique?
J'ai du mal de vous répondre, je dirais que oui, ça a eu un contre-coup. Il y a eu une édition, je crois qu'il y a dû être une nouvelle édition du grégorien qui n'a pas abouti. Hein. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Je ne suis pas capable. Il faudrait vraiment que je prépare cela à une réponse. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Non.
Moi, j'aurais une question aussi, si on m'entend. Mais alors, ça dépend peut-être un peu le cadre de la conférence de Jean-Jacques. À quel moment est-ce que l'orgue aura sa place dans la liturgie catholique? Il y a évidemment Couperin, tous ces compositeurs-là, mais à partir de quel moment trouve-t-on de l'orgue dans la liturgie catholique, dans le cadre de la messe?
Ah oui, alors on dépasse largement le cadre de la conférence. Je pense à partir de... On a quand même pas mal d'exemples de pièces pour orgue, d'hymnes. Je pense à... Les noms ne me viennent pas, comme ça. Mais bien avant Couperin, hein, bien avant Couperin, on a le chanoine de Rouen, là, comment il s'appelle, le grand organiste de Rouen. J'ai du mal. Mais dans l'office catholique, c'est bien avant Couperin. Bien avant Couperin, hein, oui. Je dirais au 16e, 17e, à cheval, 16e, 17e siècle. Je dis des bêtises, sûrement. Hein. Titlouze, je recherche Titlouze. Il faudrait retrouver les dates de Titlouze, qui écrit déjà sur les hymnes grégoriennes pas mal de versets, de variations. Hein. Avant, j'ai vu également, je joue. C'est une question piège parce que j'ai pas eu le temps de préparer là. Mais il y a encore plus ancien, hein, bien sûr. Des Magnificat. C'est dommage que j'aurais dû préparer ça. Je n'ai pas les noms là, donc je ne vais pas dire de bêtises. Hein.
Ça ne faisait pas partie de la conférence, bon.
Non, mais bon, je pourrais quand même répondre un peu plus directement. Ben, ça va me revenir, là, on arrêtera la conférence, et puis je vais dire, mais oui, ben, c'est ça, bien sûr.
Ben, en fait, la question, c'est surtout, est-ce que l'orgue, en tant qu'instrument, a sa place à partir de quel moment il a sa place dans l'office religieux ?
Ben, il a eu, bien sûr, il a eu sa place, oui. Pourquoi il n'aurait pas eu sa place
Non, c'est la question. Je ne sais pas, en fait.
J'avais lu dans les disques que dans l'orgue, il y avait à la fois, grosso modo, dans certaines pièces, il y avait une alternance. Orgue, on se faisait un verset sur deux, on faisait un verset à l'orgue,
ah,
un
verset au ça, c'est 17e, 18e siècle, c'est courant, c'est-à-dire que on pouvait dire aussi que le grégorien n'était plus tellement bien chanté, donc automatiquement on avait trouvé la solution d'alterner l'orgue avec les versets grégoriens. Moi, je sais que je l'ai pratiqué aussi, donc c'est ce qu'on trouve avec les messes de François Couperin, de Nicolas de Grigny. Là on est à Nicolas de Grigny 1704, le livre d'orgue, donc François Couperin 1660, mais il y a plus ancien que cela, hein, il y a plus ancien, oui, où l'orgue fait partie, et travaille en alternance avec le culte, avec l'office, mais vous dire quand l'orgue est arrivé directement dans les offices, ben, il faut regarder les instruments qui existent, les plus vieux instruments qui existent en Europe, on les date de quelle époque ? Si on regarde l'orgue de Notre-Dame de Sion en Suisse, il date de quelle époque ? On est fin 14e, début 15e. C'est une bêtise. Et donc, ça veut dire que s'il y avait un orgue, comme il s'appelle, on s'en servait. On ne s'en servait pas pour faire des concerts. On s'en servait pour accompagner les offices. Aussi, entre autres. Je suis un peu embêté pour répondre, là. Il faudrait préparer tout ça.
C'est une vraie question. Moi, c'est une vraie question que je me pose.
Eh bien, on cherchera. Et on trouvera des réponses. Mais pas ce soir.
Pas grave.
Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a toujours un chœur grégorien à Giromanie ? Est-ce qu'il y en a d'autres dans la région ?
Dans la région, je ne sais pas. À Giromanie, nous avons travaillé pendant 17 ans. Hein, et nous sommes arrivés à notre but, c'est-à-dire la restauration de l'orgue de Giromanie. Nous avions décidé il y a 2 ans de commencer à réduire notre pratique, hein, parce que le chœur était également vieillissant, il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement dans ce chœur, et bon, avec la pandémie, disons que là pour l'instant tout est à l'arrêt, comme pas mal de chorales partout, hein, c'est sûr qu'on ne va pas commencer à répéter le grégorien avec l'effectif actuel et dans les conditions actuelles. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Voilà.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des centres d'études, de formation du grégorien, par exemple en France, ou est-ce qu'on en est du point de vue des recherches, de la formation de spécialistes et autres ?
Moi, je pense qu'il faut regarder, pareil, vous cherchez un peu sur le net, mais moi, je sais qu'il y a quelque chose à Tours, il y a un centre d'études grégorienne à Tours, il y en a un à Paris. Et moi, ce que je vous conseille le plus simple, c'est celui de Metz, le Schola Metensis de Metz, le centre d'études grégorienne de Metz, hein, qui est dirigé par Marie-Reine de Molière, l'épouse de Christian-Jacques de Molière, qui nous a quittés assez rapidement il y a quelques années. Donc c'est un centre d'études qui fournit, qui peut donner énormément de renseignements, qui fait des formations, qui fait des concerts avec la Scola. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller.
Merci.
Jean-Jacques, pour répondre à une question, quand on regarde sur Internet, on voit pour l'orgue de Sion, on supposa pendant fort longtemps que l'orgue réputé comme le plus ancien jouable au monde date de 1390.
Oui, 14e.
Mais il n'existe aucun document historique mentionnant l'utilisation d'un orgue à Valère, donc Sion, avant 1433. Aujourd'hui, on estime que l'instrument fut édifié en 1435.
D'accord. 15e. Oui. Très bien.
Est-ce qu'il y a différentes manières d'interpréter ? Je suppose que oui. Si on entend des moines de Solène ou des moines de Sion,
voilà. Donc,
grégorien, mais disons,
il faut écouter. Alors, il faut écouter donc pas mal de disques différents. Il y a quand même beaucoup de disques qui existent dans le commerce. Ce que disait ce moine, ce père abbé que je vous ai cité tout à l'heure, il disait le grégorien a pas mal disparu, mais il y a beaucoup d'enregistrements. Il y a beaucoup d'abbayes maintenant qui font des enregistrements et ça se vend, paraît-il, comme des petits pains. Mais il y a l'interprétation, je dirais, grégorienne post-solemne, hein, c'est-à-dire il y a une certaine égalité. Hein, bien sûr, il y a les accents, le texte, la prononciation, mais il y a d'autres choses. Justement, le centre d'études grégoriennes de Metz, dont je vous ai passé un extrait tout au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vais vous le retrouver. On s'aperçoit que c'est une interprétation qui est travaillée, qui est différente, avec des inégalités. Vous avez entendu, c'est pas égal, hein. Il y a des accélérations, des ralentis, etc. Alors tout ça, c'est le fruit d'une recherche extrêmement fouillée sur l'écriture pneumatique. Mais on n'est pas encore au bout de nos peines, comme on dit. Il y a d'autres interprétations possibles, etc. C'est pas clos, c'est un sujet qui n'est pas clos. Voilà.
Jean-Jacques, est-ce que vous avez vu qu'il y a des questions sur le chat?
Ah, j'ai pas fait attention. Discussion, c'est ça?
Oui, c'est discussion.
Alors j'ouvre la discussion. J'ouvre là. Quelle place le chant grégorien occupe-t-il dans le renouveau de la musique française à la fin du 19e siècle? Est-ce une réaction face au nationalisme qui se développe en Europe? Pourriez-vous rappeler le livre dont vous avez fait mention dans l'introduction? Absolument. Donc ce livre, je vais vous le montrer, hein, c'est le livre dont j'ai parlé et dont je suis largement inspiré, c'est Le Chant Grégorien, c'est édité, édition de Solem, et c'est fait par Don Daniel Saulnier, un nom que l'on retrouve très souvent dans les revues grégoriennes. C'est une éminence, vraiment un connaisseur de ce répertoire. Vous le voyez? Oui.
Oui.
Oui, c'est bon. Voilà. Alors, je suis incapable de répondre. Quelle place le chant grégorien occupe-t-il dans le renouveau de la musique française à la fin du 19e siècle? Est-ce une réaction face au nationalisme qui se développe en Europe? Je suis incapable de répondre à cette question.
Je peux donner peut-être quelques précisions sur la question.
Oui, allez-y.
Je faisais allusion, en fait... voilà, je vais mettre l'image. Oui, parce que à la fin du 19e siècle, il y a toute l'émancipation de l'Allemagne qui est en train de se faire, et il y a donc deux écoles, une école allemande qui va être portée par le wagnerisme, et face au chromatisme et à l'expansion d'un romantisme effréné, et du chromatisme notamment, qui va aboutir à une espèce de chaos à la fin du 19e, la France et l'école française qui est menée par César Franck notamment, va relancer le chant grégorien. Et voilà, je voulais avoir quelques précisions. Il va y avoir une école, et il va y avoir un certain nombre de musiciens, hein, tels que Fauré et d'autres, qui vont développer la musique en se basant justement sur la monodie du chant grégorien. Et donc, ils vont remettre au goût du jour tout ce qu'on appelle la modalité. Voilà. Donc,
c'était... Oui, je comprends, oui, tout à fait.
Une période qui est très intéressante, justement, et qui est une période riche pour...
On peut poursuivre dans ce sens-là, effectivement, la modalité, qui n'est pas forcément grégorien, hein, on est bien d'accord. Et en ce qui me concerne, si vous voulez, ce que je connaîtrais mieux, à cheval sur le 19e, mais surtout le début du 20e, il y a toute l'école d'orgue française, il y a énormément d'organistes, je pense à Tournemire, je pense à Vierne, et je pense ensuite à la génération suivante. Si on regarde le répertoire de Jean Langlais et de Gaston Litaize, ce sont des musiciens qui baignent vraiment dans le grégorien, dans la musique grégorienne, l'inspiration grégorienne. Mais alors, au niveau de la fin du 19e, là, je n'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est tout à fait possible, oui.
Oui, le 19e est aussi une période qui est tournée vers le Moyen-Âge, dans les arts et dans la littérature. Hein, notre histoire,
on redécouvre.
Voilà, on redécouvre, oui, le Moyen-Âge, et on est, voilà, c'est un peu une espèce d'idéal.
Voilà.
Puis, oui, effectivement, comme a dit Michel Cazot, l'école Niedermayer va développer ça. Hein, donc tous les organismes qui sont issus de là, tout ça. Ben,
voilà, d'accord.
Bien. Oui, parce qu'on doit... On doit beaucoup au chant grégorien. Je pense que le chant grégorien, bon, vous avez beaucoup parlé de la musique romane et de la musique que vous appeliez. Moi, je suis vraiment un novice sur le chant grégorien parce que c'est une véritable encyclopédie que vous nous avez déroulée et j'avoue, j'étais un petit peu perdu. Et c'est d'une grande richesse, ça vaudrait la peine de se plonger un petit peu plus dedans.
Oui, vous avez parlé... ça vaudrait le coup, oui, mais c'est quand même assez difficile à expliquer, c'est assez difficile à saisir. Si on parle de la modalité d'une façon approfondie, si on parle des modes archaïques, si on fait la liaison avec les musiques qui précèdent le grégorien, hein, ça peut aller très loin, ça peut être très compliqué. Donc j'ai essayé de rester quand même relativement simple.
Parce que il est vrai que c'est grâce au chant grégorien que la musique occidentale a pu se développer.
Oui, on l'a vu par le biais de l'écriture, hein, aussi.
C'est vrai qu'on a apporté
tout à fait
grec. Mais le chant grégorien doit aussi, je pense, beaucoup à la musique hébraïque et à la psalmodie hébraïque notamment.
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui.
Donc les choses passent de culture et de tradition en tradition, je dirais.
Je pense qu'au niveau de la psalmodie, là, j'ai essayé d'aborder très 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 brièvement. Je pense qu'on était très proche aussi de ce qui pouvait se passer au niveau de la musique hébraïque, je pense, surtout dans le départ. Imaginons au départ, l'Église, les premières années, les premiers chrétiens, ils chantaient des choses analogues, il y avait des échelles, sûrement des échelles
vocales qui se ressemblaient, la monodie, la psalmodie, il y avait des choses absolument identiques, je pense, et puis après ça s'est séparé, différencié. Oui, d'autres questions?
Oui, éventuellement. Vous avez évoqué, je ne sais plus à quel moment de votre exposé, qu'il y avait encore des recherches qui se faisaient actuellement sur les grégoriens.
Oui.
Quels sont les problèmes sur lesquels on travaille encore en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir, à expliquer, à éclaircir dans le domaine de cette musique?
Ben, je pense tout ce qui concerne le rythme. On n'a encore pas au bout de nos peines, comme on dit. Tout ce qui concerne le rythme, on a trouvé, hein, mais il y a encore des recherches à faire sur les neumes, sur la façon de les interpréter. Moi, je pense que c'est déjà ça qui est très, très important. Il faudrait peut-être voir avec... je n'ai pas les documents sous la main, mais avec Jean Cardine. Cardine, donc, qui a été le... Je dirais presque l'auteur de... du graduale et triplex, hein. Il se pose encore des questions, il y a encore des choses qui ne sont pas résolues. Voilà.
L'abbaye de Saint-Gall est un centre de recherche?
Je ne sais pas, je peux vous répondre. Je sais que c'est une abbaye où il y a eu énormément de documents, on a pris énormément de documents, renseigné énormément de choses. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Il y a des centres de recherche en Allemagne. Saint-Gall, peut-être.
Pour information, je dois vous signaler qu'il y a un professeur qu'un certain nombre d'entre vous, je pense, connaissent, puisqu'il s'agit de Denis Mourier, qui est professeur d'analyse et
lycéologique
au Conservatoire de Montbéliard. Et je sais qu'à une époque, il y a quelques années...
Voilà.
C'était un passionné de chant grégorien. Il avait monté un groupe. J'avais assisté à quelques séances. Mm-hmm. Et un petit groupe d'une quinzaine de personnes. Je ne sais pas si le groupe existe encore, mais bon, si ça vous intéresse, je vous transmets l'info.
Voilà. Bon, j'avais encore quelque chose à dire par rapport au chœur grégorien de Giromanie, sur lequel vous m'avez interrogé tout à l'heure. Je pensais aussi qu'il y aurait une question à ce niveau-là. Ce n'est pas un chœur qui a été créé pour l'office, c'est-à-dire pour pratiquer le grégorien dans un cadre cultuel. C'est un chœur qui a été créé, je pense comme M. Mourier peut-être, pour découvrir le répertoire, pour le faire aimer, pour... voilà. Et donc... on peut se poser la question pourquoi on n'a pas été dans l'église de Giromanie où on répétait pour chanter pendant les offices. À votre avis, pourquoi pas? Pourquoi?
Parce que le prêtre n'en a pas voulu.
Parce que oui, voilà, ça aurait paru peut-être un peu exagéré. Oui. Il n'y a pas eu de
il y a comment on va
dire. Il n'y a pas eu de demande, il n'y a pas eu de contre-ordre non plus, on n'a pas insisté. Vous voyez, hein, on aurait pu éventuellement introduire quelques chants ordinaires, de l'ordinaire. Pourquoi pas? Dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quand même dommage que ce répertoire, comme le dit là, qui est quand même extraordinaire, de profondeur, de beauté, c'est quand même dommage de ne pas le poursuivre, de ne pas faire en sorte qu'on s'en rappelle. En préparant cette conférence, moi je me disais, mais oui, bon, les personnes qui vont m'écouter, bon, je pense qu'ils connaissent encore quelques bribes de grégorien. Hein, j'ai cité le Veni Creator, j'ai cité bon, plusieurs choses, Ictime Pascali Daodès, le Kyrie des anges, le Credo III. Mais pour combien de temps ça va encore rester? Est-ce que nos enfants connaissent encore quelques bribes de grégorien? Est-ce que nos petits-enfants
Alors là, j'en doute. Donc voilà, moi je, au niveau du chœur grégorien de Giromanie, un groupe, je dirais, s'est fait plaisir en chantant de belles choses.
Oui, c'est une question qui est soulevée, qui est intéressante, je trouve, parce que finalement, le chant grégorien, c'est quelque chose qui est relativement simple,
oui,
à chanter. Mais simple à lire, il y a quelques notes, et c'est étonnant que l'Église catholique n'ait pas eu à cœur d'apprendre à ses fidèles le chant pour leur donner une certaine autonomie, et puis peut-être s'approprier justement les évangiles à travers le chant.
Oui. Mais pour cela, ben, il faut des personnes qui s'en occupent, il faut des référents, il faut, je sais pas, une maîtrise, c'est un bien grand mot, mais il faut que les gens puissent continuer à apprendre par tradition, que ce soit de la tradition lecture d'une partition, ou tout simplement une voix, c'est une tradition orale. La tradition orale, ça marche très très bien. Plus on apprend de façon orale, plus on intègre, je pense, en soi-même. Et ça n'a pas été fait. Hein. Alors il y a, bon, j'ai lu c'est Marcel Pérez. Oui, Marcel Pérez, donc, qui connaît très bien son sujet, le grégorien. Bon, vous avez peut-être entendu des interprétations assez originales sur le grégorien. Il disait qu'il faudrait que chaque cathédrale, chaque maîtrise offre des stages de formation, reforme à nouveau des chantres. On n'est pas en train de rêver, quoi, c'est ça. Est-ce qu'on est capable de former des chantres dans les différents lieux, les différentes cathédrales, repères? Je ne sais pas. Je vois mal cela actuellement.
Est-ce que vous avez vu qu'il y a encore une question dans le chat?
Ah, oui, j'ai vu qu'il y avait un petit numéro. Alors, est-ce que le grégorien inspire aujourd'hui des recherches musicales en vue de créer de la beauté dans la liturgie? Ben, c'est-à-dire que aujourd'hui, je ne sais pas, hein, mais je sais, et c'est ce qui était intéressant tout de suite après Vatican II, que certains compositeurs était imprégné de grégorien et traduisait cela, si vous voulez, avec la langue en français. Je pense qu'il y avait de très très belles choses qui ont été faites tout de suite après l'arrivée du français, on va dire la langue vernaculaire, dans la messe. Hein. Et donc, bon, je pense à des personnes comme Deiss, il y en a d'autres. Hein. Donc, il y a eu une beauté de certains chants français, en français, grâce à une sorte d'imprégnation grégorienne. Ça, c'est oui, tout à fait, ça a été fait. Moi, je dirais pourquoi pas, aujourd'hui, si on veut refaire ça, pourquoi pas chanter tout simplement du grégorien plutôt que de faire des choses qui ressemblent. Ça me fait penser. On a de temps en temps des kyriés qui sont en kyrie eleison, mais qui sont récents, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas très très beaux, parce que ben, autant prendre ce qui existe, hein, pourquoi on va se gêner de chanter des choses nouvelles avec la langue latine, alors qu'elles existent parfaitement dans les originaux latins. Voilà. Les recherches grégoriennes musicales en vue de créer de la beauté dans la liturgie. On a eu, moi j'ai essayé de le faire avec le chœur grégorien, mais c'était assez difficile, des polyphonies grégoriennes. C'est un barbarisme, mais ça existe. Moi j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de grégorien avec le chœur grégorien, mais à deux voix, à trois voix, à quatre voix. C'est-à-dire qu'il y avait la thématique grégorienne, mais qu'elle était à plusieurs voix. Dans le genre de ce qui s'est fait, si vous voulez, à partir du moment où la polyphonie est née. Il y a eu deux voix, trois voix. On a été jusque quatre au niveau grégorien. Et donc, c'était une revisite, un peu, du chant grégorien. Mais ce n'était pas du chant grégorien. Voilà. Donc, il y a des très belles choses qui existent, je crois, même avec... j'ai entendu cela avec... avec orchestre grégorien, thème grégorien, à plusieurs voix. Bon, oui, c'est possible. Voilà.
Moi, j'ai très mal répondu. C'est un accès, si bon, le problème du grégorien ne revient pas quand même au problème du latin. Est-ce qu'on va comprendre ce qui va être chanté?
Oui, oui.
Si on ne comprend pas, c'est un peu dommage, on peut chanter n'importe quoi, quoi.
Oui,
vous avez aussi, j'ai vécu quelques messes en grégorien dans des paroisses, grosso modo, ça canardait pas mal quand même, c'était pas joli.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Et donc, ça, et que je pense que c'est encore pire que le français, ça supporte pas d'être mal chanté. Quoi.
Voilà, bah, écoutez, je suis content d'entendre cela parce que je pense que le grégorien, tel qu'il était chanté à de nombreux endroits, je dirais dans les années 60, 50, 60, avait le mérite d'être chanté, mais il était assez mal chanté. Moi, je vois encore, je me rappelle encore le curé de mon village chanter les enterrements. Alors, on ne peut rien leur reprocher. Il savait absolument tous les textes, hein, que ce soit le requiem, Dies Irae, Liberame, etc. Tout y était. Mais alors, qu'est-ce que c'était mal chanté? Déformé complètement. Je reviens à ce que je vous ai passé tout à l'heure. Je me suis excusé. La préface qui était chantée, j'ai chopé ça sur YouTube parce que j'étais pressé. Je ne trouvais pas de préface latine. Ça ne donne pas envie. Ça donne pas envie d'être écouté ou d'être pratiqué. On est bien d'accord. Hein. Donc, ça ne supporte pas l'imperfection. Oui, effectivement. Il n'y a beau avoir qu'une voix, il faut que ce soit parfait. Le texte, l'histoire du texte, on n'en a pas parlé, mais bon, il y a des choses qui se comprennent quand même assez facilement. Hein, tout ce qui est ordinaire, il suffit de le traduire une fois et puis on le comprend. Bon, à condition de bien l'articuler, je suis d'accord. La langue latine était quand même intéressante parce qu'elle était universelle. Il ne faut pas oublier cela. C'est-à-dire que tous les chrétiens pouvaient se retrouver sur un texte avec une langue commune et une musique commune. Bon, voilà. Bien pour cela.
Monsieur, une autre question. Vous avez parlé des cadences de grégorien à partir du moment où il y a eu l'écriture qui est apparue. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette décadence? Comment on a chanté?
Il n'y a pas d'enregistrement, hein, d'accord?
Pourquoi on parle de décadence, je veux dire.
Ben, on parle de décadence parce que, justement, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit. Les recherches encore actuelles, on est encore en train de se demander sur le rythme, l'élan, la rythmique intérieure. À cette époque, avec le texte, elle a disparu peu à peu parce que les gens étaient pris par le texte. C'est pas difficile, hein. On connaît le phénomène actuellement aussi. Les musiciens, comparer la spontanéité, c'est-à-dire une horreur, d'un groupe de rock, d'un groupe de musique vivante, appelez ça comme vous voulez, qui connaissent pas une seule note de musique. Ils ne connaissent pas une seule note de musique pour pas mal d'entre eux. Et il s'exprime d'une façon géniale, c'est-à-dire que ça sort, il y a de l'élan. Et cela, avec des personnes qui s'échinent, qui essayent de déchiffrer avec beaucoup de mal des partitions, et qui ont beaucoup de mal parce qu'ils sont bridés par le texte, ben, il n'y a pas photo. Il vaut mieux la tradition orale, il vaut mieux l'élan, etc. Et c'est ce qui s'est produit, je pense, avec l'écriture au départ. Les chantres n'ont plus été aussi performants, aussi vivants. Il leur manquait l'élan initial parce qu'ils étaient rivés par le texte. N'importe quel professeur de musique vous dira que lorsqu'on peut se débarrasser de la partition, on commence à faire de la musique.
En tout cas, un très très grand merci pour toutes les connaissances que vous avez su nous partager.
Oui, mais il y a beaucoup de trous, hein, excusez-moi.
Ça me rappelle que finalement, je n'ai pas retenu grand-chose de mes cours de musicologie.
Oh, si, merci, merci.